L'Éternel est avec nous. Vous allez comprendre pourquoi. On va tout de suite prendre le texte, un texte dans l'Ancien Testament. Et pour les anciens, bah, vous connaissez, certainement. Pour d'autres, vous ne connaissez pas vraiment, peut-être pas vraiment cette belle histoire de Gédéon. Donc, on va suivre ensemble. Même si ça nous prend quelques minutes, on va lire donc une bonne partie de ce que Dieu a fait par les biais de Gédéon. Et on va retirer quelques enseignements pour nous. Amen. Voilà. Donc, Juges, le livre de Juges, chapitre 6. Et on va lire 16 versets. Ça fait beaucoup, mais l'histoire est beaucoup plus longue que ça. Alors, je pense que Chanel, ta voix porte bien, non? Allez, on va lire avec Chanel ensemble, Juges, chapitre 6, et le 16, premier verset. C'est bon? Ça va.
Ouais. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. »
Amen, amen. Alors si vous ne connaissez pas très bien, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette histoire, il faudrait continuer. Lire chez vous à la maison. Voilà, donc vous avez vu, vous avez entendu. Il s'agit ici d'Israël, comme souvent, Israël s'éloigne de Dieu. C'est bon? Israël s'éloigne de Dieu. C'est un peuple de Dieu, d'accord? Bon, c'est pas mon sujet, mais ça vous le savez. S'éloigne de Dieu, et qu'est-ce qu'il faisait? Ils adoraient Baal. Donc, voilà, on va plus loin. Dieu les livra entre les mains de Madian. Alors, Baal, c'est qui? Parce qu'on parle de Baal. Ah ben, Baal, c'était l'idole. C'était l'idole, c'était un maître, c'était un dieu de païens. L'idole, dieu de païens. Que l'Israël adorait. Vous vous rendez compte? Oh, peuple de Dieu. Ils ont vu des miracles. Dieu leur a parlé. Dieu les a libérés d'Égypte. Hein, d'accord? Et puis voilà, on se détourne de Dieu. D'un Dieu de miracles, d'un Dieu puissant. D'accord? Et puis on adore l'idole, les idoles. Ah! De catastrophe. Alors Dieu se retire. Ça va? Dieu se retire. Bon, l'expression ici veut dire que Dieu les livra, hein, Dieu les livra entre les mains des Madians. C'est-à-dire que Dieu s'est retiré. Vous voulez adorer le Baal, l'idole, les idoles? Ah ben moi, je m'arrête. Et on va voir qui a raison et qu'est-ce qui va se passer. Parce que Dieu a toujours donné la possibilité à tout le monde de s'en sortir, mais en même temps, Dieu ne nous a jamais, jamais, jamais forcés. Amen. On voit ça depuis le début. Voilà. Il y a le mal et le bien. Choisis. L'engagement. Hein, on a parlé même de l'engagement. Engage-toi. Mais si tu ne t'engages pas, ah ben Dieu se retire. Et puis on va voir plus loin. Ça va? C'est bon? Donc, voilà, l'Israël s'est éloigné de Dieu. Et vous voyez ce qui s'est passé. Donc, ils ont vécu des moments très difficiles, très, très difficiles, parce qu'ils étaient donc persécutés, etc., par Madian. Alors, Madian, c'était qui? Alors, la définition de Madian, c'est Madian est une figure du monde, qui présente en croyant ses apparences trompeuse. Il représente, donc Madian représente, les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, à nous. Alors, vous savez qui était encore Madian? C'est un peuple. Madian, c'était des cousins d'Israël. Cousins, et puis ensuite éloignés cousins. Ça va? Vous êtes d'accord avec ça? Des cousins. Parce qu'Abraham, c'est pas le peuple qui. C'est pas les descendants de Sarah. Les descendants de Sarah, c'est qui? C'est Israël. Et puis voilà, ici. C'est celle qui n'était pas selon la promesse. Voilà, donc, c'était des cousins. Mais il y avait une bénédiction sur l'Israël. Dieu était là, Dieu était présent, donc quelque part, voilà, Madian était toujours jaloux, c'était des contestateurs. Et puis voilà, ils ont mis toute une stratégie pour détruire ses cousins. Ça, c'était Madian. Mais en même temps, hein, je vous ai dit, c'est une figure du monde. Du monde pervers. Et voilà ce qui se passe donc. Dieu s'adresse à Gédéon, d'accord? Vous avez entendu? Un homme simple, un homme d'une famille pauvre, on est bien d'accord? Il n'avait pas beaucoup de diplômes, je ne pense pas qu'il avait. Beaucoup d'études, comme aujourd'hui, hein. Master, Master 1, Master 2. Elle ne veut pas ça. Mais un homme qui aimait Dieu. Un homme qui a fait confiance à Dieu. Donc Dieu s'adresse à Gédéon et il lui dit, Gédéon, c'est toi. C'est toi qui vas battre qui? Madian, c'est toi qui vas battre tes cousins. Terrible, hein? Tes cousins éloignés. Et puis vous avez vu la discussion des Gédéons, donc, quand Dieu se tourne vers lui, quand Dieu lui parle par un ange. Alors vous savez que Gédéon, il est le type d'un croyant qui ne se laisse pas surmonter par les difficultés et les mâles qui l'environnent. Parce que Dieu lui dit, je suis avec toi et tu es un vaillant guerrier, héros. Donc, dans les versets 42, on parle, voilà que l'Éternel est avec toi. Tu es vaillant héros, d'accord? C'est bon, hein, je me répète. Et ensuite, le verset 14 nous dit, lorsque Gédéon a commencé à discuter, parler avec Dieu en disant, qui suis-je moi pour aller faire ce travail-là? Donc, dans le verset 14, nous dit, va avec cette force que tu as. Quelle force? Quelle force! Va avec cette force que tu as. Mais avant, on lui dit quoi? L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Si l'Éternel était avec lui, est-ce qu'il avait la force? Mais oui, amen. L'Éternel est avec lui. Donc il entend la voix, va avec cette force que tu as, parce que l'Éternel est avec toi. Donc tu as une force, tu as une autorité. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. C'est fort, hein? Et puis ensuite, pour aller plus loin, je serai avec toi et tu battras Madian, tu battras ton ennemi. Tu battras ton ennemi. Alors mes amis, qu'est-ce qu'on va retirer de tout ça comme enseignement pour nous? Nous avons aussi nos combats. On a parlé de convoitise, hein. Regardez à Pierre, chapitre 2, verset 16 nous dit, étant libre sans faire de la liberté, un voile qui couvre. Non, c'est pas ça, je me suis trompé de la référence. C'est pas grave. Verset 16, c'est bien ça? Voilà, je me suis trompé de la référence. Pas grave. On va trouver ça. Bon, ça ne vient pas. Pas grave. Non. Alors, ce verset veut nous dire, on va le retrouver après. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Ce verset nous parle de la convoitise. Convoitise de la chair. Convoitise charnelle. Et puis ce verset nous dit, préservez-vous de... Voilà. Voilà, donc c'était pas 16, c'était 11. Merci Franck. Merci. Voilà, finalement j'ai noté 11, mais pas très clair. Voilà. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. On est bien d'accord? Nous sommes des étrangers ici. On va tout laisser là. Ça va, c'est bon? Vous avez compris? Jeune ou pas jeune, ça va rester. Tout ce que vous avez, la voiture, la maison, tout va rester là. Tu vas laisser ta femme ou ton homme avant, c'est comme ça. On va les retrouver, on va se retrouver là-bas. La vie est comme ça. Voilà. Comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous, abstenir de convoitise charnelle. Convoitise charnelle qui font la guerre à qui? À nous, à nous-mêmes. Ton combat et mon combat, notre combat, c'est contre les convoitises personnelles, convoitises de notre chair. Notre premier combat, notre ennemi, c'est là. C'est ça, hein? Donc voilà nos combats, nous avons aussi nos combats. Voilà, nous avons aussi Madian autour de nous. Ça commence par la vie charnelle. Satan fait tout pour nous, quoi? Détourner de Dieu pour que nous puissions avoir, être en face de l'ennemi, de ce convoitise de Madian. Donc Satan fait tout pour nous détruire, détourner de Dieu par les moyens de convoitise charnelle. Par les moyens de convoitise charnelle. Alors, les convoitises charnelles, c'est quoi? C'est les désirs, désirer. Moi-même, je désire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est aussi simple. Alors, vous n'êtes pas là pour servir une église, une institution. Nous sommes là pour préparer notre avenir. C'est personnel. Amen. Et nous avons nos combats. Donc, je répète, le convoitise charnel, c'est désirer quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Si tu désires quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, voilà, c'est Satan qui se sert par ces billets-là pour nous détourner de Dieu. Et à un moment, Dieu peut dire, très bien, tu es plus fort que moi, je m'éloigne de toi, et puis débrouille-toi. Il te laisse la paix. On est bien d'accord? Dieu ne nous force pas. Hein. Mais les conséquences sont lourdes. Hein. Parce que déjà ce matin, on a parlé de l'éternité en travers de la Sainte Seine. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le fait que nous avons nos combats, nos difficultés, etc. Là, vous voyez autour de nous, il y a beaucoup de violence. Quelquefois, il y a la violence la violence verbale qui rentre aussi dans les maisons des chrétiens. Mais pas chez vous, hein. La violence verbale. On entend chez les voisins, etc. Voilà ce qui se passe. Mais l'ennemi veut aussi entrer dans notre vie par les billets de la violence, la haine. La haine. J'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas longtemps deux frères de sang, qui sont chrétiens, qui sont tous les deux prédicateurs, et qu'ils ont la haine l'un contre l'autre, une haine terrible. Alors moi, je leur ai dit, je ne prends pas part ni pour toi, n'essaie pas de me gagner pour que je sois avec toi, et toi non plus. Je ne voulais pas fermer la porte. Parce que tant que je dialogue avec... Ils ne peuvent pas dialoguer, même pas dialoguer. Ils s'insultent, ils jugent, ils critiquent, terrible. Alors, tant que j'ai le dialogue avec l'un et avec l'autre, il y a encore l'espoir. Hein, parce que mon objectif, c'est gagner cette situation pour Dieu. Amen, c'est ça. Je suis un pompier, je suis un médecin, je suis celui qui est dépanneur, on est là. Jésus est mort pour nous, il a fait beaucoup plus. Et à un moment, j'ai dit, là, tu sais, parce que voilà, il doit me pardonner, il doit faire ça, c'est trop grave, etc., etc. Et l'autre, la même chose, vous voyez, ça va dans deux sens. Et moi, j'ai dit, pensez un moment à Jésus, qui est sur la croix de Golgotha. Et qui souffre, qui était crucifié, qui a payé le prix, son sang a coulé. Et il n'a jamais dit, ils doivent me demander pardon. Vous comprenez? Il n'a jamais dit, c'est trop grave. Il n'a jamais dit, ils doivent, c'est à eux de faire la première démarche envers moi. C'est lui qui monte sur la croix. Il paye le prix et il dit, il pardonne à tout le monde les péchés. Alors on m'a dit, ouais, mais ce n'est pas le même contexte. Alors j'ai sorti l'histoire de Duchesne. Bon, ce n'est pas Jésus, mais on a quand même un homme hein, qui était lapidé. Hein. Vous vous souvenez, Étienne, qui était lapidé, tué, on jetait les pierres sur lui. Et lui demande à Dieu de leur pardonner. Ah oui, il faut avoir beaucoup de courage et la foi de faire ce qu'il a fait. Amen. Vous voyez? Donc, voilà, cette haine, c'est le fruit de cette convoitise. D'accord? Convoitise, c'est pas juste... convoiter une femme ou un homme, ou un péché, quelqu'un, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est le péché. On est bien d'accord, hein? Voilà, donc il y a aussi l'égoïsme. L'égoïsme, tout pour moi. C'est moi qui compte. La jalousie. Voilà, ça, ce sont les fruits de ce combat que nous avons. Cette convoitise en nous, dans tous les sens du terme, parce que l'ennemi veut nous éloigner de Dieu pour que nous puissions tomber dans les mains de Madian. Alors l'espoir et l'espérance dans tout ça, c'est que Dieu a dit à Gédéon, hein, vous avez entendu, je serai avec toi. Je serai avec toi, donc ça veut dire que Dieu est aussi avec nous. Malgré que nous avons tous ces combats-là, Dieu est avec nous pour nous libérer de tous ces problèmes de convoitises, de péchés, etc. L'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 15 à 18. L'évangile de Jean, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais Franck est là, donc il va me secourir. L'évangile de Jean, 14, 15, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Si vous m'aimez, qui dit ça? Jésus. Amen. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez, ne t'impose pas, ne force pas. Si vous m'aimez. Gardez quoi? Gardez mes commandements. Faites ma volonté. Lisez la Bible. Mettez la parole en pratique. C'est ça. C'est ça. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Donc ça, il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Un autre consolateur. Enfin, qu'il demeure éternellement avec vous. Donc il y a l'espoir, hein, on n'est pas tout seul. Hein. Et donc le verset 22 et 23, pour confirmer cette pensée, nous dit, le même chapitre, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous ?» Question, s'interroger. Hein. Voilà, à nous et non au monde. Alors, voilà la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est personnel, hein? Allô? La vie spirituelle, avant tout, c'est personnel. On est ensemble pour vivre, de s'apprécier, de combattre ensemble. Mais tout, en même temps, d'être chrétien, c'est 24 heures sur 24 heures. Amen. D'accord? Donc, si quelqu'un m'aime, c'est pas parce que tu viens au culte que ça prouve que tu aimes Dieu. Hein? C'est 24 heures sur 24 heures. C'est quand ton ennemi t'insulte et puis tu les bénis, c'est ça aimer Dieu. Oh. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père le mènera. Amen. Quelle promesse remarquable. Nous viendrons à lui, voilà. Ma pensée principale dans ce texte. Nous qui le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous. Fort, hein? Nous viendrons à lui, je répète, et nous ferons notre demeure chez toi et chez moi, chez nous. Est-ce que vous croyez? C'est pas juste une histoire, c'est une réalité, hein? Donc voilà, Dieu était avec Gédéon, il s'est retiré d'Israël, parce que, vous avez compris pourquoi, parce qu'ils ont désobéi. Mais aujourd'hui, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, si nous aimons Dieu, ah ben voilà, il est avec nous, mais en même temps, il demeure nous, il parle nous, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, vous avez compris, cette parole nous confirme que Dieu habite en nous. Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, Fred vous a prêché pendant deux dimanches. Je ne sais pas ce que tu as dit, Fred, mais je te fais confiance. Le Saint-Esprit nous a donné le Saint-Esprit parce que Dieu nous envoie la puissance par le Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de puissance, c'est juste intellectuel. D'accord ? Voilà, donc il envoie le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour pouvoir détruire toutes ces convoitises charnelles. Allô ? Donc il y a l'espoir. Hein ? Donc, nous avons le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit pour vaincre l'ennemi. Mais notre ennemi, le premier ennemi, c'est les convoitises charnelles. Je vous donne un exemple parce que j'aime bien les choses vécues. On vit tellement de belles choses. En voyageant par-ci, par-là, on voyait des choses, ce que Dieu fait dans différentes cultures et la mentalité, etc. Il faut gérer tout ça aussi. Je pense au frère d'une dame qui est donc la dame d'un pasteur. Et elle priait depuis des années pour lui. C'était vraiment loubard. C'était vraiment quelqu'un il jouait avec de la drogue, l'alcool, et toutes choses terribles. Et puis cette dame, elle priait pour son frère. C'est logique, non? Vous avez un frère, vous avez une sœur. Eh ben voilà, on prie pour eux. Et c'était tellement lourd que voilà, il y avait toutes sortes de réunions déjà. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Il s'est toujours posé. Et il est arrivé que voilà, cette dame, la femme d'un pasteur, elle dit je démissionne. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Maintenant, c'est son problème. D'accord ? Et puis voilà, on était là dans cette réunion. Cette réunion, c'est un culte du monde. Puis à la fin, donc, j'ai fait un appel. Les personnes qui veulent donner sa vie à Jésus, voilà, vous me connaissez, voilà. Hein. Voilà, il y a des gens qui s'approchent, des jeunes, moins jeunes, des filles, des garçons s'approchent. Et voilà, je reçois une pensée. Il y a un jeune homme qui doit donner sa vie à Jésus, qui est tourmenté. Et puis, bon, moi, j'étais déjà content parce qu'il y avait une douzaine, quinzaine de personnes. Donc, je me suis dit, c'est formidable, toutes ces personnes qui donnent leur vie à Jésus. Je me suis approché pour prier. Et puis, j'entends une voix. Il y a encore un jeune homme. J'ai dit, il y a dans l'auditoire quelque part un jeune homme que le Seigneur appelle. Il y a un jeune homme qui arrive. Et moi, je laisse voir une pensée, c'est pas lui. Il est concerné, mais c'est pas lui qui est appelé. Voilà, j'ai fait un appel. Il y a encore un appel à jeune homme. Il y a un jeune homme qui s'approche. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas lui. Bon, attends, ouais. Ça fait déjà deux. Et puis, il ne vient pas. Hein. Bon, d'accord, vous savez, quelquefois, on utilise un peu de diplomatie pour ne pas tout casser. Ben, on dit, il est certainement quelque part là, ton Seigneur te parle, tu peux venir me voir même à la fin du culte. Et c'est une réalité, ce n'est pas une manipulation. On donne toujours la possibilité à peu importe qui de s'approcher. Et je commence à prier pour la première personne. Et il y a une jeune fille qui vient avec un jeune homme. Hein, et elle s'approche vers moi. Et elle me dit, le jeune homme que toi, le pasteur, appelle, c'est lui. Bon, c'est pas ton mari qui est peut-être méchant avec toi. Et puis voilà, tu l'as presque forcé. Non. Le jeune homme que Dieu t'a montré, c'est lui. pourquoi je vous raconte ça? Ah, qu'est-ce que ça nous aide quand le Saint-Esprit est avec nous et il nous montre les choses. Il nous montre les choses. Voyez, 1, 2, 3. Ah, j'ai dit, Seigneur, j'ai pleuré après. J'ai dit, c'est formidable ce que tu fais. Parce que nous, on ne sait pas tout. Voilà, si le Saint-Esprit est avec nous, voilà, il nous conduit, il nous montre les choses, les gens qui ont besoin de Jésus. Ça nous facilite la vie dans l'évangélisation. Deuxième témoignage, ça va, j'ai encore quelques minutes. Voilà, nous sommes dans une église, une belle église. Et c'était le soir, c'était juste avant le culte. J'avais un message pour cette église et je me suis dit, bon, je pense que c'est ça. Tout à coup, je reçois une pensée, c'est pas ça que tu dois prêcher. Oh là là, Seigneur, mais j'ai pas le temps. Je suis même pas encore rasé. Et puis voilà, je le sois. Quand Dieu donne, c'est pas difficile. Dieu est plus facile que nous. Hein? En 5 minutes, j'ai pu réunir les pensées que Dieu m'a données. Et voilà, j'arrive dans cette église et je prêche. Ça s'est très bien passé. Et puis à la fin, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit « Prie pour les responsables, tous les responsables. » C'est rare quand je fais ça, mais une fois de temps en temps. Et là, tous les responsables s'approchent là. Alors j'ai dit « Mettez-vous au cercle là. » Et puis j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, je recevais des paroles pour les uns, pour les autres. Et je commence par les couples pastoraux. Et puis voilà, j'ai prié pour eux. Et puis voilà, donc le Saint-Esprit m'a conduit dans cette direction de prier pour l'unité, pour que, voilà, donc j'ai même eu quelques paroles pour les pasteurs. Tout a été positif. Vraiment, je me sentais bien, c'était un bon culte. Très bien. Bon, je vous transmets juste de grandes lignes. Donc à midi, après ce culte-là, on va manger chez le pasteur. Très bien, on y va là. Puis le temps passe, on discute, on parle. Et le pasteur me dit, Antoine, je suis obligé de te parler de nos difficultés à l'église. Et moi, je sentais une ambiance formidable. J'avais l'impression qu'il y avait l'onction de Dieu, il y avait Dieu. Dieu était là. Et quand j'ai prié pour l'équipe, c'était quelque chose qui devait être uni. Un soutien au pasteur, travaille ensemble, c'est ce que j'ai reçu. Et le pasteur m'a dit, ben voilà, on m'a donné les délais, ils ne sont pas contents de moi, de nous, eh ben, je dois arrêter, et puis le délai, c'est demain. Un coup d'état. Gentil. Et moi, je les regarde, je commence un peu à réfléchir. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu m'as donné cette prédication? Pourquoi tu m'as demandé de prier dans ce sens-là? C'est que j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'était conduit comme ça. J'étais convaincu. Voilà. Et moi, je le regarde, je l'écoute. Et je dis, ah! L'ennemi a mis une stratégie d'action pour détruire une église, pour détruire une équipe de responsables, pour détruire un couple jeune, enfin jeune, 40 ans. Bon, c'est jeune. Hein. C'est jeune. Bon, allez, 42. Hein. Bon, c'est jeune. Et les enfants... Ils observent tout ça. Oh non, 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 Seigneur. Et voilà, nous avons parlé ensemble. Et voilà, je lui ai fait comprendre qu'il doit attendre. Il ne faut pas qu'il démissionne après minuit. Et voilà, on était invités après pour le soir, après ce rendez-vous, enfin le repas chez le pasteur. On était invité chez un couple responsable. C'était un couple, des gens vraiment sincères, etc. J'avais pas de problème avec eux. Mais finalement, les gens poussaient cet homme pour prendre là le pastorat, la place du pasteur. Vous voyez ? On ne savait pas tout ça. Et on arrive là, et puis on est assis, et puis on discute, et lui, il me dit, voilà, il y a ça, et ça, et ça, et ça. Donc, demain, normalement, voilà, nous prenons une décision, le pasteur va nous donner la réponse. Si il reste, ben nous, on part, on quitte. Et si lui part, ben nous prenons l'église aux mains. C'est fort, hein? Alors j'ai dit, Seigneur, je ne connais pas les détails. Mais voilà pourquoi je vous parle. Le Saint-Esprit me donne les paroles. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. J'ai commencé à parler. La première question que j'ai posée tout au début, j'avais l'impression que cette personne voulait se justifier, puis m'expliquer pourquoi ils veulent faire ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à parler. J'ai senti qu'il y avait une présence de Dieu dans la pièce. Je voyais cet homme que j'aime beaucoup. Il était assis dans son fauteuil, désarmé comme ça. Et il m'a regardé, il a ouvert sa bouche. Il était comme ça. Et j'ai parlé pendant entre 10 et 15 minutes. Et je lui ai dit, voilà, si vous allez comme ça, l'ennemi va détruire votre église. Vous allez faire des groupes, 3-4 groupes comme ça. Vous allez vous disperser et l'ennemi va tout gagner. Et à la fin, j'ai senti que le Saint-Esprit... Pourquoi je vous raconte ça? C'est les témoignages sont moins importants que l'action du Saint-Esprit. Hein. Je vais vous montrer, je voulais vous dire comment Dieu nous dirige quelqu'un, quelquefois, pour que l'ennemi ne détruise pas une église. Et cet homme, à la fin, je lui ai dit, tu as quelque chose à dire? Il a baissé la tête, j'ai rien à dire. Antoine, il dit, le message que tu m'as livré, ça m'a bouleversé. Il dit, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Tu as une responsabilité, vous devez réparer tout ça. Et puis les choses sont en cours, hein. C'est actuel. Je vous parle juste de, voilà, quelquefois on parle le Saint-Esprit, c'est la guérison. Ah ben, je vais vous parler d'une guérison aussi. Ça, c'était la même église, hein. Voilà, donc là j'ai fait un appel, les gens, pour renouveler dans le Saint-Esprit. Hein. Vous voyez, hein, Fred t'a prêché ça, renouveler dans le Saint-Esprit, la puissance et tout ça. Et puis voilà, l'église, hein, ils ont soif, tout le monde, voilà, est là. Et puis voilà, il y a une personne avec une canne, elle s'approche devant, mais vraiment, vraiment, elle avait vraiment un problème. Hein. Elle marchait très, s'est déplacée avec la canne très difficilement. Bon, Christian, tu sais où ça a été, donc dis rien. Hein. Parce que comme c'est enregistré, quelquefois, je fais attention. Donc, voilà, j'allais prier déjà pour les personnes. Donc, il y avait les personnes qui se sont approchées aussi pour le baptême du Saint-Esprit. Et puis, voilà, le Saint-Esprit me dit, prie pour cette personne-là. Oh. D'accord. Je me suis approché et j'ai prié. Mais j'ai pensé aux autres, je me suis dit, bon, elle est assez vieille, donc même si elle meurt, bon, c'est bon. Bon, je plaisante. Je plaisante. Et donc, mais bon, elle n'était pas jeune. Mais elle était sauvée. Elle était sauvée, on est d'accord. Voilà. Et donc, j'ai pris, ça ne bouge pas. Moi, chaque fois quand je prie pour les malades, il n'y a pas de résultat, je suis un peu... Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu nous fais ça? Tu nous dis demander, puis etc. Quand ça ne se passe pas. Alors, j'ai demandé à Christiane qu'elle s'est débrouillée avec. Et moi, je vais prier pour les gens. Alors, les gens baptisés du Saint-Esprit, touchés, visités. Et Christiane, elle reste avec cette personne-là. Elle prie avec elle, elle combat avec elle. Voilà, j'ai demandé à la pastoresse, viens, donne un coup de main. Bon, elle était un peu figée, je ne sais pas pourquoi. Non, elle n'avait pas beaucoup. Elle n'était pas vraiment aidée. Et donc, merci, Antonia. Bon, je te prends le voyage la prochaine fois. Tu sais où, hein? Ah. Et donc, on a fini l'église. Ça a été une bénédiction extraordinaire. Et puis voilà. J'étais trempé. Je dis, Seigneur, j'ai tout donné, j'ai plus rien donné. Voilà. Et cette dame, pendant que le pasteur fait encore fait la conclusion, cette dame, elle vient vers moi, elle n'avait plus de canne. Elle courait comme une jeune fille de 17 ans. Et elle vient vers nous. Que Dieu vous bénisse. Regardez ce que Dieu fait. Que Dieu vous bénisse partout où vous voyagez. C'est formidable. Et le pasteur lui-même, il ne savait pas quoi faire. C'est un peu désordre. Il dit, laisse-la. C'est son rendez-vous. Voilà le Saint-Esprit. Voilà avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste la théorie. Amen.